RFI 8h30 à Paris, 7h30 en temps universel. Le journal avec vous, Xavier Besson.
Bonjour Julien, bonjour à tous. Nous serons à Goma dans un instant, dans l'est de la RDC. Reportage dans un des hôpitaux de la ville. Un établissement qui a vu hier un afflux de blessés après des combats autour de Sake. C'est à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Goma. Affrontement toujours entre l'armée congolaise et ses alliés. Et les rebelles M23 soutenus par le Rwanda. Des combats qui ont repris ce matin, mais au nord de la capitale du Nord Kivu. Dans ce journal également, des heurts hier aussi au Mozambique, à l'un des points d'entrée de Maputo, la capitale, et les automobilistes en colère ont réussi à retarder la mise en place d'un péage. La Centrafrique, Bangui qui a présenté hier l'un des plus gros diamants jamais extraits de ses mines, et l'Agence française de développement qui prévoit une croissance de 4% cette année pour les pays du continent. Les armes ont de nouveau parlé ce matin dans l'est de la République démocratique du Congo. De nouveaux combats signalés non loin de Goma. D'après notre correspondant, des tirs ont été entendus dès 4 heures du matin, heure locale, au niveau de Kibumba, c'est au nord de Goma. Alors que la situation était plus calme à Sake, la localité qui a concentré l'essentiel des violences hier. Sake, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Goma, la capitale du Nord Kivu. Des affrontements entre les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, et l'armée congolaise, ainsi que ses différents alliés. Affrontements que de nombreux civils de Sake, souvent eux-mêmes déjà déplacés, ont préféré fuir. Certains blessés. Reportage d'Héritier Baraka.
À l'hôpital Sebekandoshu, les personnels soignants s'activent et courent pour recevoir les blessés et les stabiliser. Ces blessés arrivent en masse depuis l'aube en moto ou en ambulance. Mariam Kashindi, âgée de 22 ans, a reçu un éclat d'une bombe sur son bras en quittant Sake en urgence.
On commençait à fuir. On était devant le marché de Mubambiro. Ma fille a été touchée par une bombe et les éclats m'ont touchée. Nous fuyons le M23. J'ai trois enfants. L'un a été blessé et l'autre, je ne sais pas où il est.
Allongée sur un lit, Neema Jeannette pleure. Avec un groupe d'amis, elle a été touchée par une explosion.
Une bombe est tombée sur nous. Nous étions un groupe de femmes. Plusieurs sont mortes sur le coup. Moi, je suis la seule survivante. Je remercie le CICR pour la prise en charge à l'hôpital.
Myriam Favier, chef de la sous-délégation CICR au Nord Kivu, explique que l'hôpital Sebekandoshu a été obligé d'activer les 4 blocs opératoires suite à l'afflux des blessés.
Bon, depuis ce matin, on a plus de 70 patients qui sont déjà arrivés. Ça continue d'affluer. Donc c'est assez inquiétant.
Jusqu'à tard dans la soirée, les hôpitaux de Goma ont continué d'accueillir des blessés. Héritier Baraka, Goma, RFI.
Et de son côté, le secrétaire général des Nations Unies s'est dit hier alarmé, Antonio Guterres, qui condamne l'offensive des rebelles du M23. Elle accroît, pense-t-il, le risque d'une guerre régionale. Et des routes encombrées hier également autour de Maputo, la capitale du Mozambique, en particulier au niveau du péage de la Nationale 4, l'une des portes d'entrée de la ville. Théâtre hier de heurts entre forces de l'ordre et des manifestants qui refusaient le rétablissement d'un péage. En fait, en raison des manifestations après l'élection présidentielle à la fin de l'année dernière, les barrières étaient depuis restées ouvertes et la gratuité était censée s'achever hier. Les automobilistes ont bloqué la route en protestation. Gaël Lalex.
Pneus brûlés, branchages et pierres ont fait leur retour sur la Nationale 4. Des files de voitures s'étendaient sur des kilomètres hier, incapables de pénétrer dans Maputo. La brigade d'intervention rapide mettra plusieurs heures à libérer la voie, tirant notamment des gaz lacrymogènes pour repousser de jeunes manifestants. Face au désordre, Trans African Concessions, l'entreprise sud-africaine qui gère l'infrastructure, a renoncé à collecter le péage. Pour les partisans de l'opposant Venancio Mondlane, c'est une victoire. Les Mozambicains ont tenu bon, adhérant au décret publié par le gouvernement du peuple, se réjouit l'organisation Justice Frontil Equitas. Mardi soir, le candidat malheureux à la présidentielle, qui revendique toujours sa victoire, a publié ce qu'il considère comme son premier décret. Parmi les 30 mesures annoncées se trouve la gratuité gratuité des péages que le décret qualifie de symbole flagrant de la dictature économique du régime. Même si ça n'en a pas l'air, nous vivons toujours dans une période de tension, explique Walker Diash, consultant en sciences politiques. Selon lui, le dialogue est impératif si le Frelimo au pouvoir veut sortir de la crise. Gaël Lalex, Nairobi, RFI.
Près de 178 carats et une valeur précise encore à évaluer. En Centrafrique, les autorités ont présenté hier l'un des plus gros diamants jamais trouvés dans le pays. Il a été trouvé dans le sud de la Centrafrique, là où l'activité et surtout le commerce légal de ces pierres précieuses a repris. Depuis qu'au mois de novembre, la Centrafrique a réintégré complètement le processus de Kimberley, c'est-à-dire le système international de certification des diamants. Reportage de Rolf-Steve Domielleux.
C'est un diamant translucide qui ne présente aucune teinte visible à l'œil nu. Cette découverte intervient après la levée en novembre dernier de l'embargo imposé par le processus de Kimberley, une organisation qui régule le commerce des diamants. Après la crise militaro-politique de 2013, cet embargo avait été instauré sur les exportations de diamants centrafricains pour éviter le commerce de pierres précieuses issues des zones de conflit. Rufin Benam Beltungu est le ministre centrafricain des Mines.
Et au bénéfice de la levée totale de l'embargo, cette population qui était meurtrie a repris ses activités de production de diamants. C'est en cela qu'un artisan a découvert un diamant de 177,95 carats. Puisque vous connaissez comment la chaîne de traçabilité est organisée chez nous en République centrafricaine, c'est comme cela que le collecteur qui est propriétaire de cette pierre a ramené cette pierre ici à Bangui.
Mais pour l'instant, il est trop tôt pour estimer la valeur de ce diamant, explique le ministre.
Nous laissons le temps à l'équipe d'experts du BEC de pouvoir expertiser en toute quiétude et ils vont produire leur rapport. Et aujourd'hui, cette pierre se trouve entre les mains de l'administration publique. Mais cette pierre appartient au collecteur qui en avait financé la production.
Alors que certains investisseurs étaient réticents à un retour en Centrafrique après des années de crise, cette découverte est selon les autorités un signal fort pour relancer l'économie du pays. Rolf-Steve Domialeux, Bangui, RFI.
Et en matière d'économie, le FMI débloque 51 millions de dollars pour le Niger. Le Fonds monétaire international estime que certes les risques de crise de la dette nigérienne sont élevés, mais que l'économie du pays va connaître une reprise qualifiée, je cite, de robuste. Dans le même temps, hier, l'Agence française de développement a publié son annuaire sur l'économie africaine pour 2025. Une année qui, selon l'AFD, sera marquée par une croissance de l'économie autour de 4%, nous détaille Claire Fage.
Première économie du continent, l'Afrique du Sud a en grande partie résolu ses problèmes d'électricité. La Côte d'Ivoire, le Bénin et le Rwanda poursuivent leur diversification dans les services et les matières premières auront cette année un effet dopant sur la croissance. Thomas Mélogneau, chef économiste de l'Agence française de développement.
On observe dans certains pays une situation favorable pour les ressources, avec par exemple le début de ou l'accélération de l'exploitation des hydrocarbures au Sénégal, même chose au Niger. Le cours de certaines matières premières, comme le cacao, comme l'or, mais aussi le cuivre, très important pour la RDC ou la Zambie. Donc ça, c'est une situation conjoncturellement favorable. Ça ne dure pas nécessairement, mais en 2025, c'est bien orienté.
La dette restera cependant un gros point de vigilance, alerte Thomas Mélogneau, à cause de son coût.
Les taux sont élevés, souvent 7, 8, 9, parfois 10%. Ça fait des emprunts qui sont vraiment coûteux. Et certains bailleurs, notamment la Chine, qui avait été très présent au milieu des années 2010, le sont un petit peu moins aujourd'hui. Et donc les nouvelles sources de financement sont vraiment un point de vigilance.
Les allègements de dettes obtenus par le Ghana, l'Éthiopie, la Zambie ou le Tchad permettront néanmoins à ces pays de respirer en 2025.
C'était Claire Fage, RFI. Il est 8h38 à Rome et à La Haye. L'Italie se justifie et la Cour pénale internationale lui répond. Après la libération cette semaine par la justice italienne du chef de la police judiciaire libyenne, pourtant recherchée par la CPI. Les autorités italiennes parlent de vice de procédure, ce que la Cour de La Haye réfute. Correspondance de Stéphanie Maupa.
En libérant le responsable libyen, les juges de Rome ont dénoncé un vice de procédure, mais la CPI a depuis donné sa propre version. Délivré le 18 janvier, le mandat d'arrêt a été transmis à 6 pays, dont l'Italie, en visite à Turin pour un match opposant la Juve à l'équipe de Milan. Osama Najim était arrêté le lendemain sur la base du mandat de la Cour. Le procureur lui reproche d'avoir, depuis 2015, ordonné aux forces spéciales de dissuasion, une unité spéciale de la police, d'avoir commis des meurtres, des tortures, des viols et des violences sexuelles contre des migrants incarcérés transférée à la prison de Mitiga. Mais voilà, le suspect est libre et les chances d'arrestation désormais très minces. La cour indique que le mandat et la demande d'arrestation ont été transmis par les canaux établis par les États membres de la CPI. La cour indique avoir transmis des informations en temps réel permettant de localiser le suspect dans la zone Schengen. Mais cette cour ne dispose pas de moyens de coercition pour forcer les États à coopérer avec elle, même si ses juges pourraient néanmoins demander à l'Italie de s'expliquer. Stéphanie Mopalae, RFI.
Enfin, au Cameroun, cela fait maintenant un an que l'on utilise le vaccin RTSS contre le paludisme. En janvier 2024, le Cameroun devenait même le premier pays à le faire à grande échelle. Aujourd'hui, 42 districts sanitaires sur 200 vaccinent les enfants, pour ce qui est un outil de plus pour la prévention. Et le secrétaire permanent du programme élargi de vaccination, le docteur Shalom Chokfendula, estime que les premiers constats sont encourageants. Le paludisme étant la première cause de consultation, ces consultations sont aujourd'hui moins nombreuses.
S'il y a 17% de consultations en moins, ça veut dire que les gens tombent moins malades et on fait une supposition que c'est surtout parce qu'ils sont moins malades du paludisme. Et là, on parle de la population de moins de 5 ans. Même avec un nombre limité de doses de vaccins, même avec un temps de recul très faible, la tendance est déjà positive dès la première année. En fait, c'est un résultat très, très remarquable sur les données empiriques et aussi sur les témoignages des parents très, très positifs. Donc, il est évident que maintenant que nous avons passé la première année, qu'on réfléchisse à l'extension. On va espérer que les pressions des organisations qui militent pour améliorer les accès à la vaccination va quand même baisser le prix. C'est ce que nous souhaitons tous pour qu'un outil aussi important dans la santé publique, on ne devrait pas avoir des barrières financières pour y accéder.
Le docteur Shalom Chokfendula, secrétaire permanent du programme élargi de vaccination du Cameroun. Et le prix de ce vaccin, aujourd'hui, c'est environ 9 dollars la dose. Il en faut 4 par enfant. Un coût supporté par le Cameroun et par l'Alliance pour le vaccin Gavi. À Yaoundé, il est 8h42 et vous êtes avec Julien Coquelle-Rohem.